Leonid Andreïev. Le gouffre. Histoire de Sergueï Petrovitch. Ce qui avait le plus impressionné Sergueï Petrovitch dans la doctrine de Nietzsche, c'était l'idée du surhomme et de tout ce que disait Nietzsche sur les gens forts, libres et audacieux. Sergueï Petrovitch avait de l'allemand une connaissance médiocre, scolaire, et la traduction lui avait coûté beaucoup de peine. Son travail avait été grandement facilité par Novikov, un camarade avec lequel il avait partagé une chambre pendant un an et demi, qui parlait couramment allemand et avait une grande culture philosophique. Mais en novembre 1890, alors qu'il ne restait que quelques chapitres de « Ainsi parlait Zarathoustra » à traduire, Novikov avait été exilé à Moscou pour un scandale. Et, tout seul, Sergueï Petrovitch avait fort peu progressé. Mais il ne le regrettait pas du tout et se contentait parfaitement des chapitres qu'il avait déjà lus, dont il savait des pages entières par cœur, et, qui plus est, en allemand. Car, dans la traduction, quelle que fût sa qualité, les aphorismes perdaient beaucoup. Ils devenaient trop simples, trop compréhensibles, comme si l'on discernait le fond de leur mystérieuse profondeur. Tandis que lorsque Sergueï Petrovitch contemplait le tracé gothique des lettres germaniques, il voyait dans chaque phrase, outre le sens premier, quelque chose que les mots ne pouvaient exprimer. Leur profondeur transparente s'obscurcissait et devenait insondable. Il lui venait parfois à l'esprit que si un nouveau prophète apparaissait sur terre, il devrait parler d'une langue étrangère pour être compris de tous. Et il n'avait jamais traduit la fin de ce livre, le seul ouvrage de Nietzsche laissé par Novikov. Sergueï Petrovitch était étudiant de troisième année en faculté de sciences naturelles. Ses parents vivaient à Smolensk, ainsi que ses frères et sœurs, dont certains étaient plus âgés que lui et d'autres plus jeunes. L'un de ses frères, l'aîné, était déjà médecin et gagnait bien sa vie. Mais il ne pouvait venir en aide à sa famille, car il avait déjà fondé la sienne. Sergueï Petrovitch devait donc subsister avec 15 roubles par mois, et cela lui suffisait, car il mangeait gratuitement à la cantine des étudiants, ne fumait pas et buvait très peu. Quand Novikov était encore là, il buvait beaucoup, mais cela ne lui coûtait rien, car Novikov, qui donnait régulièrement des cours particuliers de langue fort bien rémunérés, prenait en charge toutes les dépenses de leur beuverie. Un jour, par la faute de ce même Novikov qui, lorsqu'il était en état d'ébriété, aimait à grimper sur les arbres du boulevard, où il entraînait Sergueï Petrovitch, le tribunal de paix avait condamné les deux camarades à une amende de 10 roubles, et c'était Novikov qui l'avait payé. Étant donné la simplicité de leurs relations amicales, c'était tout à fait naturel et n'avait troublé personne, sauf Sergueï Petrovitch. Mais le manque d'argent était un fait auquel il fallait se résigner. Il existait encore bien d'autres faits auxquels il fallait se résigner. Et quand Sergueï Petrovitch réfléchissait plus profondément sur sa vie, il se disait qu'elle était, elle aussi, un fait relevant de cette catégorie. Il n'était pas beau, pas vraiment laid, mais pas beau, comme des centaines et des milliers de gens. Son nez camus, ses lèvres épaisses et son front bas le rendaient semblable à n'importe qui, privant son visage de toute individualité. Il s'approchait rarement des miroirs et se coiffait même à l'aveuglette. Mais quand il lui arrivait de s'en approcher, il considérait longtemps ses yeux, qui lui semblaient ternes, pareille à de la purée de pois, dans laquelle un couteau s'enfonce aisément jusqu'au fond, sans rien rencontrer de dur. À cet égard, comme à bien d'autres, il se distinguait de son ami Novikov, qui avait des yeux perçants et hardis, un front haut et un beau visage à l'ovale régulier. Un long torse, quand il sert à supporter une pareille tête, semblait à Sergueï Petrovitch non une qualité, mais un défaut, et c'était peut-être la raison pour laquelle il se voûtait en marchant. Mais ce qui lui paraissait le plus pénible, c'était de ne pas être intelligent. Au collège, les professeurs le trouvaient carrément stupide, et dans les petites classes, ils le lui disaient sans embâge. À la suite d'une de ces réponses idiotes, un prêtre l'avait traité de « crétin de Smolensk et de Mogilev ». Et bien que cette expression n'eût pas été inventée pour lui et fût communément appliquée à tous les élèves bornés, Sergueï Petrovitch n'oubliait pas ses origines. Il avait été, semble-t-il, le seul de sa classe à ne jamais avoir reçu de surnom. Si l'on ne tenait pas compte du « Sergueï Petrovitch » dont tout le monde l'affublait, tant les professeurs que les élèves et les concierges. Il n'y avait en lui rien qui pût donner matière à un sobriquet humoristique. À l'université, ses camarades, qui aimaient se classer les uns les autres selon l'intelligence, le rangeaient dans la catégorie des imbéciles. Il ne le lui avait jamais dit en face, mais Sergueï Petrovitch le devinait au seul fait que jamais personne n'engageait avec lui de conversation sérieuse, et que l'on s'adressait toujours à lui en plaisantant. Alors que dès que Novikov apparaissait, on abordait aussitôt des sujets sérieux. Au début, Sergueï Petrovitch avait protesté en silence contre cette réputation d'imbécile. Il avait essayé de faire, de dire ou d'écrire quelque chose d'intelligent, mais cela n'avait abouti qu'à le rendre ridicule. Depuis, il était si fermement convaincu de sa bêtise que si le monde entier avait reconnu en lui un génie, il ne l'aurait pas cru. Car le monde ne savait pas et ne pouvait pas savoir ce que Sergueï Petrovitch, lui, savait. Le monde pouvait l'entendre proférer une pensée intelligente, mais il ignorait que cette pensée avait été volée, ou bien acquise au prix d'un tel labeur que cela lui ôtait toute valeur. Ce que les autres assimilaient en un clin d'œil lui coûtait de douloureux efforts. Et même si cela s'imprimait dans sa mémoire de façon indélébile, cela lui restait étranger, extérieur, comme s'il s'agissait non d'une pensée vivante, mais d'un livre qui lui était entré dans la tête et dont les coins s'enfonçaient dans son cerveau. Cette comparaison était d'autant plus pertinente qu'à côté de l'idée, il voyait toujours avec netteté et précision la page sur laquelle il l'avait lue. Les pensées auprès desquelles il ne voyait pas de page, et qu'il considérait donc comme les siennes, étaient les plus élémentaires, les plus ordinaires et les plus bêtes qui fussent. Elles ressemblaient à des milliers d'autres pensées sur terre, de même que son visage ressemblait à des milliers d'autres visages. Il avait été difficile de se résigner à ce fait, mais Sergueï Petrovitch y était parvenu. À côté de cela, d'autres petits faits comme l'absence de talent, une faiblesse des bronches, la gaucherie ou le manque d'argent semblaient insignifiants. Sans même s'en rendre compte, Sergueï Petrovitch était devenu un rêveur naïf, un songe creux. Tantôt, il s'imaginait qu'il gagnait 200 000 roubles et partait voyager à travers l'Europe. Mais, n'ayant aucune imagination, il était incapable d'aller plus loin que le moment où il montait dans le wagon. Tantôt, il rêvait qu'un miracle le rendait soudain beau, intelligent et doté d'une séduction irrésistible. Après un opéra, il se voyait chanteur, après la lecture d'un livre, savant. En sortant de la galerie Tretiakov, peintre. Et, chaque fois, il y avait à l'arrière-plan la foule. Eux, Novikov et les autres, qui s'inclinaient devant sa beauté et son talent, tandis qu'ils faisaient leur bonheur. Quand Sergueï Petrovitch entrait dans la cantine à grands pas mal assurés, la tête enfoncée dans son col décoloré, il ne serait venu à l'idée de personne que cet étudiant chétif, au visage plat et banal, disposait en cet instant de tous les trésors de l'univers. À la cantine, il se recroquevillait sur lui-même, avalait en toute hâte son léger repas et essayait de détourner les yeux quand un étudiant qu'il connaissait passait en cherchant du regard une place libre. Il redoutait ce genre de rencontre, car il ne savait jamais quoi dire, et, quand il se taisait, il était mal à l'aise. Ses rêveries récurrentes commençaient à acquérir une ombre de réalité, mais plus il se représentait clairement ce qu'il aurait pu ou voulu être, plus il lui était difficile de se résigner à la dure réalité qu'était la vie. Sa rupture avec le monde des vivants se produisit de façon tout aussi imperceptible, et il fut le premier à s'en rendre compte. Entraîné par des habitudes prises au collège, il faisait partie de toutes les organisations d'étudiants et assistait scrupuleusement aux réunions. Il écoutait les orateurs, plaisantait quand on plaisantait avec lui, puis inscrivait sur un bout de papier un « plus » ou un « moins ». Mais, la plupart du temps, il évitait de voter, car il était incapable, en si peu de temps, de décider de quel côté se trouvait le bon droit. En général, sa décision correspondait à l'avis de la majorité et se confondait avec lui. Sergueï Petrovitch se rendait aussi à des soirées et, chaque fois, il s'enivrait avec ses hôtes et les autres invités. Il chantait alors en leur compagnie, de sa voix de basse sourde et rauque, se laissait embrasser et allait voir les femmes. C'étaient les seules femmes qu'il connut, et encore, seulement quand il était ivre. Quand il était à jeun, elles lui inspiraient du dégoût et de l'effroi. Les autres femmes, celles qui étaient pures et bonnes, il ne cherchait pas à les fréquenter, car il était sûr qu'aucune ne l'aimerait. Il connaissait bien quelques étudiantes qu'il saluait dans la rue en rougissant, mais jamais elles n'adressaient la parole à cet étudiant bête et laid, même si, comme tout le monde, elle savait qu'il s'appelait Sergueï Petrovitch. Si bien qu'en apparence, il ne faisait pas partie de ces étudiants solitaires, menant dans leur coin une vie dont personne ne sait rien, qui apparaissent uniquement aux examens avec une multitude de fiches, l'air hagard, alors qu'en réalité, il n'avait avec les autres aucun de ces liens vivants qui rendent la compagnie d'autrui agréable et nécessaire. Et il n'aimait aucun de ceux avec lesquels il plaisantait, buvait de la vodka et échangeait des baisers. Quand Sergueï Petrovitch n'était pas en train de rêvasser ou de travailler, il lisait beaucoup et sans discernement, uniquement pour tuer le temps. Il n'aimait pas les livres sérieux, parce qu'il n'y comprenait pas grand-chose, ni les romans, parce qu'ils étaient les uns trop semblables à la vie, et aussi triste qu'elle, les autres mensongers et invraisemblables, comme ses propres rêves. Il pouvait rêver qu'il gagnait 10 millions, mais quand il lisait cette histoire dans un livre, il trouvait cela ridicule et avait honte de ses rêves. Les romans russes lui semblaient véridiques, mais cela lui faisait mal de les lire, à l'idée qu'il était l'un de ces hommes insignifiants et abîmés dont parlaient ces gros livres sinistres. Il y avait cependant 2 romans, tous 2 des traductions, qu'il aimait lire et relire. Il aimait se plonger dans le premier, les jours de cafard et de détresse, quand pleurait à sa fenêtre et dans son âme un automne morose aux soupirs lugubres. Mais il avait honte d'en parler. C'était 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Il était fasciné par la personnalité puissante, sauvage et libre du capitaine Nemo, qui avait fui les hommes dans les profondeurs inaccessibles de l'océan, d'où il caressait la terre de son mépris. L'autre livre était « Seul sur le champ de bataille » de Spielhagen. Il aimait en discuter avec des camarades et se réjouissait quand il saluait avec admiration le noble despote Léo. Par la suite, sur les conseils de Novikov, qui avait remarqué son amour pour les grands hommes, il s'était mis à lire des biographies. Il les dévorait avec intérêt, mais se disait chaque fois « Ce n'était pas un homme comme moi ». Et plus il en savait sur les grands hommes, plus il devenait petit. C'est ainsi que Sergueï Petrovitch avait vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. La première année, il avait échoué à l'examen de physique et, dès lors, il avait étudié avec zèle. Comme les sciences naturelles requièrent beaucoup de travail, le temps passait sans qu'il s'en rendît compte, dans l'étreinte de fer du labeur. Ces tristes réflexions sur sa vie ratée perdirent peu à peu de leur acuité, et Sergueï Petrovitch commença à s'habituer au fait qu'il était un homme ordinaire, pas très intelligent et sans originalité. Son esprit se trouvait juste à la frontière qui sépare la bêtise de l'intelligence, là où l'on distingue aussi bien l'un et l'autre versant. On peut contempler la sublime noblesse d'une puissante intelligence et comprendre le bonheur qu'elle procure à celui qui en est doté. Et l'on peut voir la pitoyable bassesse de la bêtise satisfaite d'elle-même, heureuse derrière les murs épais du crâne, invulnérable comme dans une forteresse. À présent, il regardait plus souvent de ce côté-là. Il voyait qu'il existait bien des hommes pires que lui, et la vue de ces hommes lui procurait plaisir et réconfort. Il se mit à lire moins et à boire plus de vodka, non de grandes quantités d'un coup, comme autrefois, mais juste un verre avant chaque repas. Cela lui plaisait davantage, car il se sentait bien, gai, et n'éprouvait plus les pénibles sensations de la gueule de bois. En été, à Smolensk, il connut sa première histoire d'amour. Fort drôle pour tout son entourage, mais pour lui, agréable, poétique et nouvelle. L'héroïne en était une jeune fille qui venait bêcher les plates-bandes du jardin. Pas très jolie et sotte, mais gentille. Sergueï Petrovitch ne savait pas pourquoi elle était tombée amoureuse de lui et la méprisait un peu pour l'amour qu'elle lui portait. Mais il aimait bien les rendez-vous secrets dans les ténèbres du jardin, les chuchotements, la peur. Lorsqu'il retourna à Moscou en automne, elle pleura et il se sentit un homme nouveau. Il était fier et satisfait de lui-même, puisqu'il était finalement aussi bien que les autres. Il avait une vraie femme, qu'il aimait sans argent et pleurait de le quitter. Comme tant d'autres, Sergueï Petrovitch ne pensait pas qu'il était vivant. Il avait cessé de remarquer la vie, et elle s'écoulait, plate, insignifiante et trouble, comme un ruisseau vaseux. Mais il y avait des moments où il avait l'impression de se réveiller d'un sommeil profond, et il prenait conscience, avec horreur, qu'il était toujours le même homme insignifiant et terne. Il passait alors des nuits entières à penser au suicide, jusqu'à ce que cette haine féroce et exigeante envers lui-même et son destin se transformât en une pitié paisible et douce. Puis, la vie reprenait ses droits, et il se répétait encore une fois que cette vie était un fait auquel il fallait se résigner. C'est justement à cette époque, alors que cette résignation au fait devenait possible et imminente, qu'il se lia avec Novikov. Leurs camarades ne comprenaient pas cette amitié saugrenue. Car Novikov était considéré comme le plus intelligent de ses pairs, et Sergueï Petrovitch comme le plus bête. Ils en étaient venus à penser que Novikov, fat et vaniteux, voulait avoir auprès de lui un miroir pour refléter sa brillante intelligence. Et il trouvait cocasse qu'il eût choisi un miroir si déformant et de si piètre qualité. Novikov avait beau assurer que Sergueï Petrovitch n'était pas aussi bête qu'il le paraissait. Il considérait cette affirmation comme l'expression de cette même vanité. C'était peut-être le cas. Mais Novikov était si réservé et si délicat dans la manifestation de sa supériorité que Sergueï Petrovitch s'était pris d'affection pour lui. C'était la première personne pour laquelle il éprouvait de l'affection, le premier ami que la vie lui envoyait. Il était fier de Novikov, lisait les mêmes livres que lui, le suivait docilement dans les restaurants, grimpait sur les arbres avec lui et songeait à la chance qu'il avait d'être l'ami d'un homme destiné à accomplir de grandes choses. Il suivait avec un émerveillement plein de vénération le travail de cet esprit bouillonnant, qui laissait derrière lui, tel des bornes, les théories philosophiques, historiques et économiques, pour foncer toujours plus avant. Sergueï Petrovitch lui avait piteusement emboîté le pas au petit trot, jusqu'au jour où il s'était rendu compte qu'il perdait de plus en plus de terrain. Et ce fut un moment pénible que celui où, lui qui avait voulu fondre son moi dans un autre moi plus profond et plus fort, comprit que c'était impossible, et qu'il était intellectuellement aussi loin de son ami, avec lequel il vivait, que de ces grands hommes dont il lisait les vies. Ce fut Nietzsche, que ce même Novikov lui avait fait découvrir, qui l'aida à le comprendre. Chapitre 2. Lorsqu'il avait lu le début de « Ainsi parlait Zarathoustra », Sergueï Petrovitch avait eu l'impression que le soleil se levait sur la nuit de sa vie. Mais c'était un soleil de minuit, un soleil triste, et ce qui l'éclairait n'était pas un tableau joyeux, mais le désert froid et mort qu'était son âme et sa vie. Pourtant, c'était quand même une lumière, et il se réjouit de cette lumière comme jamais il ne s'était réjoui de rien dans sa vie. À l'époque assez récente dont nous parlons, fort peu de gens connaissaient Nietzsche en Russie. Aucun journal, aucune revue n'en parlait. Et le profond silence dont était entouré Zarathoustra donnait à ses paroles un sens, une force et une pureté, comme si elles tombaient directement du ciel. Sergueï Petrovitch ne savait pas qui était Nietzsche, s'il était âgé ou jeune, s'il était mort ou vivant, et il n'y songeait pas. Il ne voyait que des pensées, revêtues de la forme rigoureuse et surnaturelle des lettres gothiques, et le fait que ces pensées fussent détachées du cerveau qui les avait créées et de toutes les contingences terrestres ayant accompagné leur naissance, leur conférait un caractère divin et éternel. Tel un jeune prêtre à la foi fervente, auquel est apparue une divinité longtemps attendue, il dissimulait son Dieu aux regards étrangers et souffrait quand il était effleuré par des mains grossières et impudentes. En l'occurrence, les mains de Novikov. Parfois, le soir, après avoir traduit quelques chapitres avec lui, Novikov discutait de ce qu'il venait de lire. Assis à son bureau, comme du haut d'une chaire, il parlait avec verve et clarté, articulant distinctement chaque mot, accentuant la logique de son discours et marquant la ponctuation par de courtes pauses. Sa tête volumineuse aux cheveux coupés ras, pareille à un ballon fuselé malgré les protubérances de son front, se dressait, solide et immobile, au bout de son cou trapu, Son visage était toujours pâle. Et quand il était très ému, seules ses oreilles écartées s'enflammaient, comme deux morceaux de tissu rouge plaqués sur une boule de billard jaune. Il parlait des persécuteurs de Nietzsche en philosophie, du lien entre sa doctrine et les courants économiques et sociaux du siècle, affirmait qu'il avait fait un bond en avant de 1000 ans avec sa thèse fondamentale de l'individualisme, du « je veux ». Parfois, il se moquait de la langue fumeuse du livre, dans lequel il décelait de l'affectation, et Sergueï Petrovitch faisait alors de faibles tentatives pour protester. Ce que disait Navikov lui paraissait très intelligent, d'une intelligence qu'il n'atteindrait jamais lui-même, mais non conforme à la vérité. Il sentait qu'il comprenait mieux, plus intimement, les paroles de Zarathoustra, mais dès qu'il commençait à les expliquer, le résultat était plat, pitoyable, et n'avait rien à voir avec ce qu'il pensait. Alors, il se taisait, rageant contre son cerveau et sa langue. Mais il arrivait que Novikov tombât sous le charme de la prose rythmée de Zarathoustra et se laissa toucher par l'indicible. Il se mettait alors à déclamer, de sa voix claire et puissante. Sergueï Petrovitch écoutait avec vénération, inclinant son visage ingrat, et chaque mot flambait dans son cerveau somnolent et épais. Sergueï Petrovitch ne remarqua pas le moment où il cessa de considérer les faits avec calme et de s'y résigner avec une sourde tristesse. C'était comme un tonneau de poudre qui aurait pris feu, mais il ignorait si la mèche brûlait depuis longtemps. En revanche, il savait ce qui l'avait allumé. C'était la vision du surhomme, cet être inaccessible mais humain, qui incarnait toutes les possibilités latentes en lui et disposait de plein droit de la force, du bonheur et de la liberté. C'était une vision étrange, éclatante jusqu'à éblouir douloureusement les yeux et le cœur. Elle avait des contours vagues et indéfinis. Merveilleuse et inaccessible, elle était simple et concrète. Sergueï Petrovitch avait considéré sa vie dans l'éclat de cette lumière, et elle lui avait paru toute nouvelle, passionnante, comme un visage familier éclairé par la lumière d'un incendie. Il avait regardé devant et derrière lui, et ce qu'il voyait ressemblait à un long couloir étroit et gris, sans air et sans lumière. Derrière, le couloir se perdait dans les souvenirs grisâtres d'une enfance sans joie, et devant, il se noyait dans la pénombre d'un avenir semblable. Et dans ce long couloir, il n'y avait pas un seul tournant brusque, pas une seule porte donnant sur l'extérieur, là où le soleil brille, là où rient et pleurent des êtres vivants. Dans ce couloir flottaient autour de lui les ombres grises de gens qui ne rient ni ne pleurent, hochant en silence leur tête d'imbéciles dont la nature sans pitié s'est si cruellement jouée. Tant que Novikov fut à Moscou, Sergueï Petrovitch s'adonnait tous les jours à la même tâche. Il se comparait à son camarade sur lequel il croyait voir le reflet du surhomme. Il observait son visage, ses gestes et ses pensées, et rougissait quand Novikov surprenait son regard stupide mais inquisiteur. La nuit, quand Novikov dormait, il écoutait son souffle calme et régulier, et se disait qu'il ne respirait pas comme lui. Cet homme endormi, qu'il avait aimé, lui semblait à présent étranger et mystérieux. Tout en lui était un mystère. Son souffle profond, ses pensées, cachées sous la protubérance de son crâne, sa naissance et sa mort. Il ne comprenait pas comment pouvaient dormir sous le même toit deux hommes dont chacun avait son monde à lui, distinct, ses pensées et sa vie. Sergueï Petrovitch n'éprouva pas de chagrin quand Novikov fut exilé à Moscou. Les 24 heures que ce dernier passa en sa compagnie à faire ses bagages en pestant s'écoulèrent sans qu'il s'en rendît compte, et les deux camarades se retrouvèrent à la gare. Ils étaient à jeun, car il y avait juste assez d'argent pour le voyage. « J'ai eu tort de vous donner Nietzsche, Sergueï Petrovitch, » déclara Novikov avec cette politesse guindée qui était l'une des particularités de leur relation et dont il ne se départait jamais, même dans les moments d'ivresse sur les arbres du boulevard. « Pourquoi, Nikolaï Grigorievitch ?» Novikov garda le silence, et Sergueï Petrovitch ajouta « Je ne le lirai plus, cela me suffit. » La troisième sonnerie retentit. « Eh bien, adieu. »« Vous écrirez ?» demanda Sergueï Petrovitch. « Non, je n'aime pas écrire. Mais vous, écrivez-moi. » Après un instant d'hésitation, ils s'embrassèrent, tout gênés, ne sachant combien de baisers se donner, et Novikov s'en alla. Une fois seul, Sergueï Petrovitch comprit qu'il y avait longtemps qu'il souhaitait et attendait ce jour où il resterait seul avec Nietzsche, où personne ne le dérangerait plus. Et de fait, à partir de cet instant, personne ne le dérangea plus. Chapitre 3. Extérieurement, sa vie changea du tout au tout. Il cessa complètement de fréquenter les cours et les travaux pratiques, le mémoire qu'il avait commencé à rédiger pour l'examen, caractéristique comparée des hydrates de carbure de la catégorie des graisses et des hydrates de carbure de la catégorie des arômes. Il cessa également de fréquenter ses camarades et n'apparaissait plus qu'aux réunions, et encore, en coup de vent. Un jour, les étudiants se rendirent tous ensemble chez les femmes et rencontrèrent là-bas Sergueï Petrovitch qui, chose étonnante, était parfaitement à jeun. Comme autrefois, il rougissait quand on le taquinait et, une fois ivre, chanta, puis disserta d'une langue pâteuse sur un certain Zarathoustra. Il finit par fondre en larmes et provoqua un esclandre, les traitant tous d'imbéciles et se qualifiant lui-même de surhomme. Après cet incident, qui les fit beaucoup rire, ils perdirent Sergueï Petrovitch de vue pendant un certain temps. Depuis qu'il était venu au monde, jamais son esprit n'avait fonctionné avec autant de ferveur et de persévérance que durant ses courtes journées et ses longues nuits. Son cerveau exsangue ne lui obéissait pas et, là où il cherchait des vérités, lui présentait des formules, des idées et des phrases toutes faites. Fourbu, épuisé, il faisait penser à un cheval de trait grimpant une montagne chargée d'un pesant fardeau, qui halète et tombe à genoux, poussé de l'avant par un fouet cuisant. Ce fouet, c'était la vision, le mirage du surhomme, qui possède de plein droit la force, le bonheur et la liberté. Par moments, ses pensées étaient voilées par un épais brouillard, vite dissipé par les rayons du surhomme. Et Sergueï Petrovitch voyait sa vie avec autant de clarté et d'honnêteté que si elle était dessinée ou racontée par quelqu'un d'autre. Ce n'était pas une succession de pensées rigoureusement logiques, s'exprimant par des mots. C'était des visions. Il voyait un homme qui s'appelait Sergueï Petrovitch, et pour qui rien n'existait de ce qui rend la vie heureuse ou amère, mais du moins profonde, humaine. La religion et la morale, la science et l'art, tout cela n'était pas pour lui. Au lieu d'une foi brûlante et active, de celle qui déplace les montagnes, il sentait en lui un imbroglio ridicule, dans lequel le rituel se mêlait à une superstition de mauvais aloi. Il n'était pas assez ahuri pour nier Dieu, ni assez fort pour croire en lui. Il ne possédait pas non plus de sens moral et n'éprouvait pas les émotions qui en découlaient. Il n'aimait pas les hommes et était incapable de ressentir cette joie suprême, sans pareille ici-bas, la joie de travailler pour les autres et de mourir pour eux. Mais il n'était pas non plus capable de les haïr. Jamais il ne lui avait été donné d'éprouver les délices brûlants de la lutte avec ses semblables, ni de la joie démoniaque de la victoire sur ce que le monde entier vénère comme sacré. Il était incapable de monter assez haut ou de tomber assez bas pour dominer la vie et les autres, soit en se levant au-dessus de leurs lois et en les édictant lui-même, soit en se plaçant au dehors de ce qui retient les hommes et les remplit d'effroi. Il lisait dans les journaux des articles sur les gens qui tuent, volent, violent, et, chaque fois, il concluait sa lecture par la même pensée. « Moi, j'en serais incapable. » Dans la rue, il croisait des gens descendus jusqu'au bas-fond de l'humain. Et là aussi, il se disait « Moi, j'en serais incapable. » De temps à autre, il entendait parler de héros qui avaient affronté la mort au nom d'une idée ou de l'amour. Et il disait « Moi, j'en serais incapable. » Tous, il les enviait, les pécheurs comme les justes. Et les paroles de Zarathoustra, impitoyables dans leur vérité, résonnaient à ses oreilles. « Si tu ne réussis pas ta vie, si un ver venimeux te ronge le cœur, sache que ta mort, elle, sera réussie. » Sergueï Petrovitch n'éprouvait pas le besoin de faire le mal, mais il voulait être bon. Ce désir lui avait été inculqué par les livres et par les hommes. C'était un désir puissant, mais stérile et torturant, comme la soif de lumière pour l'aveugle de naissance. Il songeait à son avenir, et il n'y avait pas là de place pour le bien. Après ses études, il avait l'intention d'entrer dans l'administration fiscale. Mais il avait beau réfléchir, il ne voyait pas quel bien il pourrait accomplir en tant que fonctionnaire du fisc. Il se représentait déjà ce qu'il serait, intègre, consciencieux, laborieux. Il se voyait gravir avec une lente et inexorable régularité l'échelle des promotions et s'arrêter à mi-chemin, accablé par les ans, la misère et les maladies. Il comprenait que ses mérites face aux cruautés de l'existence seraient reconnus. Il fêterait ses 30 ans de service, comme son père l'avait fait récemment. On prononcerait des discours. Il les écouterait et pleurerait d'attendrissement, comme son père. Il embrasserait des hommes, tout aussi âgés et tout aussi grisonnants que lui, d'anciens et de futurs fonctionnaires rongés par la vie. Puis il mourrait, en songeant qu'il laissait derrière lui une dizaine d'enfants pareils à lui, et la Gazette de Smolensk publierait une brève notice nécrologique qui conclurait en disant que venait de mourir un travailleur utile et intègre. Et cet éloge posthume lui semblait amer et douloureux, comme un coup de fouet sur sa chair nue. Douloureux parce que les gens, en voulant dire un mensonge agréable, prononcerait une vérité insultante et indiscutable. Et il songeait que si les hommes comprenaient toujours ce que dit leur langage, ils n'oseraient pas parler d'utilité et offenser des gens déjà offensés. Sergueï Petrovitch ne comprit pas d'emblée en quoi consistait son utilité. Et longtemps, son cerveau se débattit convulsivement, écrasé par un travail au-dessus de ses forces. Mais le brouillard se dissipa, et la vive lumière du surhomme, et ce qui était une énigme insoluble devint simple et limpide. Il avait une utilité, et ce, à bien des égards. Il était utile pour le marché, en tant qu'individu anonyme qui achetait des souliers, du sucre, du pétrole, et qui, associé à la masse des autres, bâtissait des palais pour les puissants de ce monde. Il était utile pour les statistiques et pour l'histoire, en tant qu'entité anonyme qui naît et qui meurt, sur laquelle on étudie les lois de la démographie. Il était aussi utile pour le progrès, puisqu'il était un estomac et un corps frileux, pour lesquels mugissaient des milliers de rouages et de machines. Plus il arpentait les rues en regardant autour de lui, plus son utilité lui semblait évidente. Au début, il se passionna pour elle comme pour une découverte. Il regardait avec une curiosité nouvelle les riches demeures et les somptueux équipages. Il prenait exprès l'omnibus pour que ses 5 copecks soient utiles. Mais très vite, il fut agacé par l'idée qu'il ne pouvait faire un pas sans se rendre utile à quelqu'un, puisque son utilité ne dépendait pas de sa volonté. Il se découvrit alors une autre utilité, et c'était la plus amère, la plus blessante de toutes. Elle le faisait rougir de honte et de chagrin. C'était l'utilité du cadavre sur lequel on étudie les lois de la vie et de la mort, ou bien celle de l'esclave que l'on fait boire pour montrer aux autres les méfaits de l'alcool. Parfois, la nuit, au cours de ces périodes de révolte intérieure, Sergueï Petrovitch imaginait les livres qu'on écrivait sur lui ou sur les gens comme lui. Il voyait nettement des pages imprimées, d'innombrables pages imprimées avec son nom dessus. Il voyait les hommes qui écrivaient ces livres et qui bâtissaient leur fortune, leur bonheur et leur gloire sur lui, Sergueï Petrovitch. Les uns racontaient combien il était pitoyable, bon à rien, inutile. Ils ne riaient pas, ne se moquaient pas de lui, non. Ils essayaient de représenter son malheur de façon touchante, pour faire pleurer, et ses joies de façon à faire rire. Avec le candide égoïsme des gens puissants et repus qui discutent avec d'autres gens tout aussi puissants, ils essayaient de montrer que même les créatures comme Sergueï Petrovitch ont quelque chose d'humain. Ils démontraient avec ardeur et passion qu'ils ont mal quand on les bat et sont contents quand on les caresse. Si les écrivains avaient du talent et arrivaient à démontrer ce qu'ils voulaient, on leur érigeait des monuments dont les piédestals paraissaient en granit, mais étaient en réalité les innombrables Sergueï Petrovitch. D'autres écrivains plaignaient Sergueï Petrovitch, mais ils en parlaient d'après ce qu'en disent les premiers et se creusaient la tête pour comprendre d'où sortent des gens comme lui et ce qu'ils deviennent. Ils étudiaient ce qu'il fallait faire pour qu'il n'y ait plus de gens tels que lui à l'avenir. Pour les capitalistes, il était utile comme source de richesse. Pour les écrivains, comme marchepied pour leurs monuments. Pour les savants, comme grandeur leur permettant d'approcher la vérité. Pour les lecteurs, comme objet sur lesquels exercer leurs bons sentiments. Voilà l'utilité que se trouvait Sergueï Petrovitch. Et son âme était en proie à la honte, à la sourde colère d'un homme qui, pendant longtemps, n'a pas compris que l'on se moquait de lui et qui, en se retournant, voit des rictus et des doigts pointés sur lui. La vie, à laquelle il s'était longtemps résigné comme à un fait, le fixait de ses yeux profonds, froids, sérieux, affreusement incompréhensibles dans leur austère simplicité. Tout ce qui jusqu'alors l'avait vaguement tourmenté, se manifestant par d'obscures souffrances et une sourde détresse, prit la parole d'une voix forte et puissante. Son « moi », qu'il considérait comme la seule chose authentique ne dépendant ni de son faible cerveau ni de son cœur veule, se rebella soudain exigea tout ce à quoi il avait droit. Je ne veux pas servir de matériau muet au bonheur des autres. Je veux être moi-même heureux, fort et libre. J'en ai le droit, déclarait-il en exprimant la secrète pensée qui hante bien des esprits et rend tant de gens malheureux, mais n'est exprimée que rarement et avec tant de difficultés. À l'instant où il prononça pour la première fois cette phrase claire et précise, il comprit qu'il prononçait la condamnation de ce qui s'appelait Sergueï Petrovitch, et que jamais il ne pourrait être fort et libre. Et il se révolta contre la nature qu'il avait privé de visage. Il se révolta comme l'esclave sur la chair duquel les fers ont laissé des plaies sanglantes, mais qui, pendant longtemps, n'a pas eu conscience de l'humiliation de cet esclavage sans droit, et pliait docilement l'échine sous le fouet du geôlier. C'était ce que ressentirait un cheval, doté soudain par miracle d'une conscience et d'une intelligence humaine, à l'instant même où le fouet lui cingle le dos, mais qui n'a ni voix ni force pour se rebeller. Plus l'oppression a été longue, dure et impitoyable, plus la colère du révolté est violente. C'est précisément à cette époque que Novikov reçut la première lettre de Sergueï Petrovitch. Une lettre très longue et inintelligible, car Sergueï Petrovitch n'était pas en mesure de formuler en pensée et en mots tout ce qu'il voyait si bien et si clairement. Novikov ne répondit pas à cette lettre, car il n'aimait pas écrire, et était fort occupé par ses beuveries, ses livres et ses cours de langue. Il parla pourtant à l'un des amis qu'il entraînait dans les tavernes de Sergueï Petrovitch de sa lettre et de Nietzsche, en se moquant de Nietzsche, qui aimait tant les hommes forts et devenait l'idole des pauvres d'esprit et des faibles. La première conséquence de cette révolte fut que Sergueï Petrovitch retourna à ses rêves naïfs, à demi oubliés. Mais il ne les reconnut pas, tant la conscience de son droit au bonheur les transformait. Désespérant de lui-même en tant qu'être humain, il se demanda alors s'il pourrait quand même être heureux dans ces conditions. Le bonheur est si vaste. Il prend des formes si diverses. Un homme qui ne peut être heureux dans un domaine peut trouver son bonheur dans un autre. Et la réponse que découvrit Sergueï Petrovitch l'incita à se révolter contre les hommes comme il s'était déjà révolté contre la nature. Chapitre 4. Il habitait non loin de la cantine du comité, dans un grand immeuble de 3 étages, peuplé de bas en haut par des propriétaires et par des étudiants. Il avait une chambre petite, mais propre, et ses voisins, des étudiants, étaient des gens tranquilles et sobres, si bien qu'il lui était aussi facile de travailler que de réfléchir, le seul désagrément étant la sempiternelle fumée qui montait le matin de la cuisine. Mais Sergueï Petrovitch avait cessé de travailler, et la moitié de la journée, sa chambre restait vide et plongée dans l'obscurité. Il marchait beaucoup, sans se lasser, et l'on pouvait croiser dans toutes les rues de Moscou sa longue silhouette coiffée d'une casquette décolorée. Par une belle journée froide, mais ensoleillée, il monta même sur la colline aux Moineaux, d'où il contempla longuement Moscou enveloppé de fumée et d'une brume rosée, ainsi que le ruban étincelant du fleuve et des jardins. Il lui était plus facile de réfléchir en marchant, et les spectacles qu'il voyait facilitaient le travail de sa pensée, de même qu'une illustration facilite la compréhension d'un texte pour les esprits médiocres. tel un propriétaire qui a pris conscience de sa ruine et fait une dernière fois le tour de son domaine en tirant de tristes conclusions. Sergueï Petrovitch tirait lui aussi ses conclusions. Et elles étaient tout aussi tristes. Tout ce qu'il voyait lui disait qu'il pourrait lui aussi connaître un relatif bonheur, et en même temps qu'il ne le connaîtrait jamais. Jamais. La seule chose qui aurait pu faire le bonheur de Sergueï Petrovitch aurait été de posséder ce qu'il aimait dans la vie et d'éviter ce qu'il détestait. Il ne croyait pas Hartmann, qui avait toujours eu le ventre plein et affirmait que la possession de ce que l'on souhaite n'apporte que déception. Il pensait, comme Novikov, que la philosophie du pessimisme est destinée à consoler et à leurrer les gens privés de tout ce que les autres possèdent. Il était sûr qu'il saurait être heureux si on lui donnait de l'argent, cette liberté qui erre de par le monde et que les esclaves forgent pour les maîtres. Sergueï Petrovitch était travailleur, mais n'aimait pas le travail, et peinait sous son fardeau, car il n'avait jamais connu le travail qui lui procura du plaisir. Au collège, il avait travaillé pour étudier des matières qui ne l'intéressaient pas, et lui étaient étrangères, qui allaient même parfois à l'encontre de son jugement et de sa conscience. Et, dans ce cas, travailler était un tourment. À l'université, son travail était plus facile, plus calme et plus raisonnable, mais il ne procurait pas non plus de plaisir à son esprit froid. Quant aux leçons particulières qui lui étaient arrivées de donner, elles étaient l'envers des cours qu'il avait suivis au collège, et tout aussi pénibles. Son futur travail de fonctionnaire du fisc promettait d'être tout aussi fastidieux et mortellement ennuyeux. C'était seulement l'été, chez lui, à Smolensk, qu'il se reposait en s'adonnant à une besogne simple et fruste. Il faisait de la menuiserie, fabriquait des fusils et des flèches en bois pour ses petits frères, réparait la palissade du jardin, les bancs, ébêchait les plateformes, retournant la terre glaise et poreuse avec un râteau luisant. Ça, c'était un travail agréable, qui lui procurait de la joie. Mais ce n'était pas celui auquel le destinait sa naissance, dans une famille de fonctionnaires et son éducation. Certains hommes, qui souffrent de la discordance entre leurs capacités et leur travail, brisent les cadres et font ce qu'ils ont envie de faire. Ils deviennent ouvriers, bergers, vagabonds. Mais ce sont des hommes forts et hardis, comme il en existe peu sur la terre. Or, Sergueï Petrovitch, lui, se sentait faible, timide, et poussé par une volonté étrangère, comme une locomotive que seule une catastrophe peut faire dévier des rails posés par une main inconnue. Non seulement il était incapable d'agir, mais il était même incapable de s'imaginer abandonnant son costume convenable, son appartement et ses cours pour vagabonder en guenilles sur les routes ou s'atteler à une charrue. Or, la première chose qui aurait pu le rapprocher du bonheur aurait été de se libérer d'un travail qui allait contre sa nature et lui était odieux. Pourtant, il avait droit à la liberté, puisqu'il voyait des gens nés d'une femme comme lui, doté de nerfs et d'un cerveau, comme lui, qui ne travaillait pas du tout et se contentait de se consacrer aux occupations qui leur plaisaient. « Ce que d'autres possèdent, j'y ai droit, moi aussi », se disait Sergueï Petrovitch durant cette période de révolte contre la nature et les hommes. Lui aussi, il aurait trouvé des occupations qui lui auraient plu. La principale d'entre elles aurait été l'observation de la nature. Non, l'étude de ses secrets les plus profonds. Pour cela, il fallait être intelligent. Mais la connaissance immédiate, par la vue, l'odorat et tous les autres sens. Il aimait la nature vivante d'un amour tendre et même passionné, mais profondément caché, que Novikov était le seul à soupçonner. Un brin d'herbe au printemps, le tronc blanc d'un bouleau surgissant de la terre molle et odorante, de fines brindilles noires collées sur son sein moelleux. Tout cela le fascinait et réjouissait son cœur. Il ne comprenait pas pourquoi il aimait à ce point cette terre noire qui lui procurait tant de chagrin. Mais au printemps, quand il la revoyait, libérée de la neige froide et morte, qui semblait soupirer au soleil, il avait envie de lui donner un long baiser tendre, comme on embrasse une femme aimée. Lui qui était voué à passer toute sa vie dans une petite boîte carrée, au milieu du fracas et de la poussière des rues, sous le ciel sale d'une ville, il enviait les vagabonds, avec leur sommeil sur lequel veillent les étoiles, qui voient et qui savent tant de choses. Tandis que lui, il ne voyait et ne verrait jamais rien d'autre que des bouleaux, de l'herbe, des rivières peu profondes et de petites collines. Il lui était arrivé de lire de superbes descriptions, sans doute véridiques, de la mer et des montagnes. Mais sa faible imagination n'arrivait pas à lui peindre des tableaux vivants. Il aurait voulu vérifier de ses propres yeux si vraiment la mer était aussi profonde et aussi illimitée, si elle était bien bleue, ou verte, ou même rouge, si elle était bien parcourue par des hautes vagues, si, au-dessus, dans le ciel bleu, voguaient des nuages blancs ou de terribles nuées noires. S'il était vrai que les montagnes étaient si hautes, si abruptes et si boisées, séparées par des gorges brumeuses et bleuâtres, si leurs cimes enneigées scintillaient sous un ciel vert. Était-ce vrai? Un profond soupir monté du fond de ses poumons encrassés soulevait alors sa poitrine et effaçait le sourire gêné et ravi qui errait sur son visage ingrat. Plus encore que les vagabonds, il enviait ceux qui possèdent la mer et les montagnes. Un jour, alors qu'il flânait dans la ville en repérant dans la foule les êtres libres et forts et ceux qui étaient à jamais privés de liberté, il vit l'enseigne d'un panorama stéréoscopique et entra. On montrait des montagnes, des lacs et les châteaux de Louis II de Bavière. Les photographies en couleur défilaient devant ses yeux. Elles étaient si vivantes. Elles avaient tant de relief que l'on sentait la brise et le lointain bleuté. L'eau scintillait comme de la vraie eau, reflétant les bois et les châteaux. Un bateau à vapeur blanc, tout pimpant et tout propre, traçait avec sa proue des sillons d'écume. Il y avait sur le pont, assis ou debout, des hommes, des femmes et des enfants vêtus avec élégance. On avait l'impression de distinguer les sourires joyeux sur leurs visages. Puis il vit un château, avec ses tours blanches et ses terrasses crânelées au-dessus des forêts verdoyantes, dévalant en cascade vers une vallée. Et il vit l'intérieur du château. Des salles majestueuses, d'innombrables tableaux, la magnificence royale des velours et des lourds bocards, la lumière qui entrait à flots par les fenêtres gothiques et ruisselait sur les parquets. À une fenêtre, tournant le dos à Sergueï Petrovitch, un homme était assis, indifférent et calme. Il regardait en bas, là où l'on ne voyait que les cimes des montagnes et un ciel radieux. Sergueï Petrovitch contempla longuement cette silhouette immobile. Il lui semblait voir tout ce que l'homme voyait, la forêt, les vallées et l'acier bleuté des lacs. Il sentait combien l'air que cet homme respirait devait être pur et frais. Il se disait que dans ces salles majestueuses, avec leurs plafonds aussi hauts que le ciel et leurs fenêtres d'où l'on voyait la moitié du monde, il ne pouvait y avoir de tristesse ni de lugubre pensée. Et le plus important, le plus étonnant, c'était que cet homme était drôlement assis sur sa jambe repliée et montrait la semelle de sa botte, comme Sergueï Petrovitch l'aurait fait à sa place. Et cet homme respirait l'air des montagnes. Il pouvait arpenter ces salles majestueuses. Pris d'un soudain accès de rage et de désespoir, Sergueï Petrovitch grinça des dents et fit un bond en avant, comme s'il voulait pousser dans l'abîme cet homme immobile. Et il se fit mal en se cognant les sourcils et le nez contre le cadre de la vitre. Il fut saisi de honte à l'idée que sa colère était affectée, qu'elle tenait compte de l'existence de la vitre, et que s'il avait vu cet homme en réalité, il n'aurait pas osé l'effleurer du bout du doigt. Timide et pacifique, tremblant à la seule vue d'un poulet qu'on égorge, il n'était pas non plus capable de colère. Lorsqu'il sortit du bâtiment du panorama, il se retrouva dans une ruelle de Moscou, tortueuse et bosselée, débarrassée de sa neige par les concierges et souillée par le fumier des équipages. Il se dit qu'il n'existait pas de fait auquel l'homme dût se résigner. Après la nature venait la musique, l'art sous toutes les formes accessibles à l'esprit de Sergueï Petrovitch et susceptible de remplir sa vie, de la rendre intéressante et variée. Puis venait l'amour d'une femme, auquel son cœur aspirait. Au concert, au théâtre ou dans les rues, il voyait des femmes d'une beauté pleine de noblesse, élégante et raffinée, et il avait soif de leur amour. Il y en avait une qui l'avait frappée. Il l'avait croisée à plusieurs reprises et rêvait d'elle. Mais pas une seule fois elle n'avait levé les yeux sur lui, et elle ignorait son existence. Le souvenir de l'amour de la fille qui bêchait les plates-bandes et sentait le fumier et la sueur le remplissait de dégoût. De même que l'idée des femmes tout aussi frustes qu'il aimerait et parlerait avec lui d'argent, d'un travail détesté. Il aspirait douloureusement à l'amour de cette femme dont il ne connaissait pas le nom et qui ne comprenait pas ce qui le faisait souffrir, lui et ses semblables. Comme tout homme qui n'a jamais eu d'argent, il croyait que l'argent pourrait lui donner l'amour. Et, comme tout homme qui n'a pas connu l'amour des femmes, il pensait que celle-ci pourrait le rendre heureux. C'était à cette époque qu'il s'était rendu chez les filles où ses camarades l'avaient rencontré, et qu'il avait délibérément cessé de boire, afin d'avoir une conscience plus claire du sort qui l'attendait en ce monde, lui et ses semblables. Plus Sergueï Petrovitch observait la vie, plus la nature, qui prodiguait ses dons en dépit du bon sens, lui semblait impuissante et insignifiante. Et, devant ses yeux ternes, à la place de la nature dépréciée, se dressa une force menaçante et puissante. L'argent. Aveuglé, désorienté, il se mit à penser que l'argent était aussi le maître de la nature. Son faible cerveau se laissa leurrer, et l'espoir naquit en son cœur. Il sortait de sa poche un rouble en argent et le retournait dans sa main avec un étrange sentiment de curiosité et de perplexité, comme si c'était la première fois qu'il voyait cette pastille ronde. Elle ne tombait pas du ciel, ces pastilles. Celle-là, il l'avait acquise, et il pourrait encore en acquérir beaucoup d'autres. Il aurait alors entre ses mains une force considérable, qui a tout pouvoir sur la nature. Et, comme tout homme qui reprend espoir, il commença à penser non à la possibilité de donner corps à cet espoir, mais à ce qu'il ferait quand il se réaliserait. Ces quelques jours furent pour lui un répit. Il monta très haut, pour s'écraser par terre plus brutalement encore, et ne plus jamais se relever. Il considérait la possession d'un million comme un fait accompli, et rêvait de la mer, des montagnes, de la femme dont il ne connaissait pas le nom et qui ne soupçonnait même pas son existence. Mais il était impossible d'arrêter sa pensée une fois lancée, aiguillonnée par un fouet aussi mordant que la vision du surhomme, celui qui possède de plein droit force, bonheur et liberté. Quand cette vision surgissait devant les yeux lasses de Sergueï Petrovitch, il s'étonnait de s'adonner comme jadis à des rêves d'enfant irréalisables. Bien des chemins menaient à l'argent, mais sur chacun d'eux, il y avait un obstacle qui lui barrait la route. Il était incapable de voler, comme il était incapable de tuer, car ce n'était pas son cerveau qui dirigeait ses actes, mais une volonté étrangère et inconnue. Le travail qui était à sa portée ne pouvait lui procurer la richesse et tout le reste, les spéculations boursières, une usine, un emploi avec de gros appointements, l'art, le mariage avec une femme riche, tout ce qui est permis par la loi et la conscience, et assure une situation en un jour ou en un an, tout cela n'existait pas plus pour lui que l'intelligence. Lorsqu'il comprit que l'argent ne corrige pas les injustices de la nature, mais ne fait que les accentuer, et que les hommes achèvent toujours ceux qui ont été défavorisés par la nature, le désespoir étouffa l'espoir, et son âme devint la proie des ténèbres. La vie lui apparut comme une cage exiguë aux barreaux de fer nombreux et épais, et elle n'avait qu'une seule porte de secours qui ne fut pas verrouillée. Ce fut alors le début d'une nouvelle période dans la vie de Sergueï Petrovitch. Il ne sortait plus de chez lui, sauf pour aller à la cantine, et ne s'y rendait qu'à la fermeture pour éviter de rencontrer des connaissances. Il passait ses journées et ses nuits couchés sur son lit, ou bien il marchait. Ses logeurs et ses voisins s'étaient habitués au bruit monotone de ses pas, comme celui qu'on entend parfois dans une cellule de prison. Un, deux, trois pas dans un sens. Un, deux, trois pas dans l'autre sens. Un livre était posé sur la table, et, bien qu'il fût fermé et couvert de poussière, il en sortait le grondement d'une voix tranquille, ferme et implacable. Si tu ne réussis pas ta vie, si un ver venimeux te ronge le cœur, sache que ta mort, elle, sera réussie.
Chapitre 5. Puisque vaincre était impossible, il fallait mourir. Sergueï Petrovitch décida donc de mourir, et il pensait que sa mort serait une victoire. L'idée de la mort n'était pas nouvelle. Elle lui était déjà venue auparavant, comme elle vient à tout homme dont le chemin est jonché de nombreuses pierres. Mais elle était aussi stérile et abstraite que ses rêves sur le million. À présent, elle se présentait à lui comme une décision. Elle était non un souhait qui peut ou non se réaliser, mais un fait inexorable qui devait obligatoirement se produire. Une porte de sortie s'ouvrait dans la cage, et bien qu'elle menât vers l'inconnu et les ténèbres, cela importait peu à Sergueï Petrovitch. Il croyait vaguement en une vie nouvelle et n'en avait pas peur, car il n'emporterait avec lui que son « moi » libre, qui ne dépendait ni de son cerveau débile, ni de son cœur veule, tandis que son corps reviendrait à la terre. Qu'elle fabrique donc un nouveau cerveau et un nouveau cœur. Lorsqu'il se sentit calmement disposé à mourir, pour la première fois de sa vie, il éprouva une joie profonde et fière. la joie de l'esclave qui brise ses chaînes. « Je ne suis pas un lâche, » dit-il. C'était le premier compliment qu'il se faisait à lui-même, et il le reçut avec fierté. On aurait pu croire que l'idée de la mort allait faire disparaître toutes les préoccupations liées à la vie et au corps désormais inutiles. Mais ce fut l'inverse qui se produisit. Et durant les derniers jours de son existence, il redevint l'homme méticuleux et d'une propreté scrupuleuse qu'il avait été autrefois. Il s'étonna d'avoir pu laisser si longtemps sa chambre et sa table en désordre, et fit le ménage, rangeant ses livres à la place qu'ils occupaient jadis. Il posa sur le dessus le mémoire qu'il avait commencé, dont Novikov hérita par la suite, et mit de côté ainsi par les Zarathoustra. Il ne l'ouvrit même pas, manifestant une totale indifférence envers ce livre qu'il n'avait visiblement pas terminé, car les notes au crayon dans les marges s'arrêtaient à la moitié de la troisième partie. Peut-être avait-il peur d'y trouver quelque chose de nouveau et d'inattendu, susceptible de réduire à néant tout ce long et douloureux travail, qui lui laisserait l'impression d'un rêve radieux et terrible. Il se rendit ensuite au bain public, nagea avec délice dans la piscine froide, puis, ayant rencontré dans la rue un camarade étudiant, entra avec lui dans un débit de boisson, chez l'Allemand, où il but une bouteille de bière. De retour chez lui, tout rose et tout propre, vêtu d'une chemise de toile blanche, il sirota du thé avec de la confiture de framboise, puis demanda une aiguille à sa logeuse et se mit à raccommoder sa veste d'intérieur. Elle était déjà vieille, trop étroite, et se déchirait sans cesse sous les bras. Ce n'était pas la première fois qu'il la reprisait. Ses gros doigts malhabiles avaient du mal à saisir la petite aiguille qui se perdait dans le tissu gris et moisi. Il consacra plusieurs jours à la préparation du cyanure de potassium, et quand le poison fut prêt, il contempla le flacon avec satisfaction, en songeant non à la mort qu'elle renfermait, mais au travail qu'il venait d'accomplir. La logeuse, une petite dame noiraude, une ancienne femme entretenue, devait se douter de quelque chose, car elle se réjouit beaucoup lorsque Sergueï Petrovitch montra des signes de retour à une vie normale et laborieuse. Elle vint le voir dans sa chambre et lui parla longuement de la mauvaise influence de la solitude sur les jeunes gens, évoquant une personne de sa connaissance, un commissaire de police, qui avait des revenus mais que son caractère sombre avait poussé à boire et qui avait fini par échouer sur la Kitrovka, où il rédigeait à présent des lettres et des requêtes pour un verre de vodka. Par la suite, elle raconta l'histoire du commissaire de police à tous les étudiants qui venaient la voir, en ajoutant qu'à ce moment-là, elle avait déjà remarqué une analogie entre le destin de cet homme et celui de Sergueï Petrovitch. « Passez prendre une tasse de thé chez moi, » dit-elle à Sergueï Petrovitch sans la moindre arrière-pensée. « Et puis, vous devriez fréquenter vos camarades. Qu'est-ce que c'est que ça? Personne ne vient vous voir et vous n'allez jamais nulle part. » Sergueï Petrovitch suivit son conseil et rendit visite à presque tous ses camarades, mais ne resta longtemps chez aucun d'eux. Par la suite, les étudiants assurèrent que la folie débutante de Sergueï Petrovitch était déjà évidente, et ils s'étonnaient de ne pas l'avoir remarqué alors. Lui, d'ordinaire taciturne et timide, même avec ses proches, avait bavardé cette fois de tout et de rien, et avait évoqué Novikov en en parlant comme d'un égal, lui reprochant même d'être superficiel. Il était en outre très gai et éclatait souvent de rire. Un jeune étudiant racontait qu'il avait même chanté, mais là, tout le monde trouva qu'il exagérait. Ils étaient néanmoins tous d'accord pour dire que Sergueï Petrovitch avait sans conteste quelque chose de bizarre. Mais il n'y avait pas prêté attention alors, parce que, de façon générale, il ne faisait guère attention à lui. À propos de ce manque d'attention, certains étudiants, qui condamnaient de façon particulièrement vive l'indifférence et l'égoïsme de leurs camarades, soulevèrent une question intéressante. Était-il possible de sauver Sergueï Petrovitch à cet instant décisif de sa vie? Et l'on conclut qu'il aurait parfaitement pu être sauvé. Non grâce à l'ascendant d'un esprit fort, mais grâce à l'influence de quelqu'un de proche, de sa mère ou d'une femme qu'il aurait aimée. On supposait que durant ces journées, Sergueï Petrovitch se trouvait dans un état d'hébétude apparenté à l'hypnose. Quand on est sous l'emprise totale d'une idée, la sienne ou celle d'un autre, il était impossible de l'ébranler par des arguments. Mais l'amour, lui, aurait pu le réveiller. Un cri du cœur venant de sa mère, la vue de ce visage si cher et si aimé, dont la moindre ride est familière depuis l'enfance. Ses larmes, que même un homme endurci ne saurait supporter. Tout cela aurait pu lui faire reprendre conscience de la réalité. C'était un homme bon et honnête. Il n'aurait pas eu la force d'affliger le cœur d'une mère, et il aurait continué à vivre, sinon pour lui-même, du moins pour ceux qu'il aimait. Bien des êtres faibles, résolus au suicide, ont été retenus sur terre par la conscience d'être nécessaires à ceux qui les aimaient. Et ils vivent encore longtemps, confortés par l'idée qu'il faut plus de courage pour vivre que pour mourir. Il y en a encore davantage qui oublient les raisons qui les poussaient jadis au suicide, et qui regrettent même que la vie soit si courte. Certains s'en prirent alors à leurs camarades, avec une violence redoublée, leur reprochant durement leur indifférence révoltante. Un télégramme de 10 mots adressé à la mère de Sergueï Petrovitch aurait pu sauver une vie humaine. Cet incident amena quelques étudiants, qui mettaient toujours en avant le point de vue social, à des réflexions et à des conversations sur le manque de solidarité entre les étudiants, l'absence d'intérêt commun et la solitude intellectuelle. Durant une courte période, on vit apparaître plusieurs cercles culturels, où on lisait des livres sur des questions sociales, où on rédigeait des comptes rendus. Sergueï Petrovitch avait décidé de se tuer le vendredi 11 décembre, alors que beaucoup de ses camarades se préparaient déjà à partir pour les vacances de Noël. Ce matin-là, il était allé à la poste, d'où il avait envoyé, en recommandé, une lourde lettre adressée à Novikov, à Smolensk, puis avait rangé le reçu dans son portefeuille. Dans cette lettre, il informait Novikov de sa mort et des raisons de cette mort, raisons qu'il avait exposées par rubrique. Et toute cette lettre donnait l'impression qu'il parlait non de lui-même, mais de quelqu'un qui ne l'intéressait guère. Dans la journée, il avait déjeuné à la cantine du comité, était resté très longtemps à table et avait bavardé avec des connaissances. Puis, après le repas, il avait dormi si longtemps et si profondément qu'il ne s'était réveillé qu'à 11 heures. On lui avait apporté le samovar et les étudiants, de l'autre côté de la cloison, avaient de nouveau entendu le bruit monotone de ses pas. 1, 2. 3 pas dans un sens. 1, 2. 3 pas dans l'autre sens. Lorsque, plus tard dans la nuit, la domestique somnolente était venue chercher le samovar et la vaisselle, il lui avait parlé, comme s'il souhaitait qu'elle restât davantage. Et, d'après elle, il était très pâle. Sergueï Petrovitch ne s'attendait pas du tout à ce qui lui arriva ce soir-là, qu'il considérait comme le dernier de sa vie. Il était parfaitement calme, gai, et ne songeait pas plus à la mort que les jours précédents. Il ne commença à y penser qu'une heure ou deux avant de prendre le poison. Et ses pensées venaient de très loin. Elles étaient sans suite, assourdies. Il avait d'abord pensé à la logeuse, puis à la façon dont il serait allongé, à l'allure qu'il aurait. Sa pensée dévia un instant sur des souvenirs d'enfance, et plus précisément sur la mort de son oncle. Il était mort chez eux, dans leur maison, et Sergueï Petrovitch, à l'époque le petit Serioja de 7 ans, avait été conduit chez les voisins. En passant dans le vestibule, déjà tout habillé, il avait jeté un coup d'œil dans le salon. Il avait vu la table sur laquelle il mangeait d'habitude, et sur cette table, des pieds tournés vers lui, immobiles, en chaussettes de fil blanc. Il ne les avait vus qu'une seconde, mais il s'en souvint toute sa vie, et pendant longtemps, il s'était représenté la mort comme des pieds immobiles en chaussettes de fil blanc. Puis il songea à un incident relativement récent, à des funérailles très pauvres et très étranges qu'il avait vues. Ce qu'elles avaient d'étrange, c'était qu'absolument personne dans la rue, ni les passants, ni les cochers, n'y prêtait attention. On aurait même dit qu'ils ne les voyaient pas, car personne ne se découvrait. 4 croque-morts portaient sur une litière un cercueil couvert d'une étoffe sombre et marchaient en cadence d'un pas si rapide que le cercueil se balançait, comme secoué par des vagues, et le bord du tissu gonflait en redescendant. On ne voyait pas de prêtre, ni personne pour l'accompagner. Quand Sergueï Petrovitch reprit ses esprits après ses souvenirs, sa pensée était étonnamment acérée, nette et claire, comme un couteau bien affûté. Elle hésita encore un instant, indécise, remarquant le silence environnant, le samovar éteint, le tic-tac de la montre sur la table. Et soudain, comme si elle venait de trouver exactement ce dont il avait besoin, lui peignit le tableau de ses propres funérailles. Un tableau si véridique, si vivant et si terrible qu'il en frémit, et ses mains se glacèrent. Toujours avec cette même authenticité impitoyable, terrifiante, elle évoquait tout ce qui allait suivre. La gueule noire et tordue de la fosse, le cercueil dur et étroit, les boutons verdis de sa tunique, le processus de décomposition du cadavre. On aurait dit que ce n'était pas Sergueï Petrovitch qui pensait, mais une main géante qui faisait défiler devant lui la vie et la mort, avec toutes leurs couleurs indescriptibles. Et Sergueï Petrovitch se réveilla. Il était si terrifié qu'il avait envie de hurler. Il considéra le flacon avec horreur et recula, comme s'il redoutait qu'on lui versât de force le poison mortel dans la bouche. Ce qui lui faisait le plus peur, en cet instant, c'était lui-même. C'était l'effroyable insoumission que manifestaient ses jambes et ses mains. Il reculait, mais tout son corps frémissait d'envie de se jeter en avant, sur le flacon. Ses jambes, ses mains et sa bouche étaient remplis, jusque dans leurs os et leurs veines, semblait-il, d'un désir fou, impérieux de se précipiter sur le flacon, pour le saisir et l'avaler avec délice, avec avidité. « Je ne veux pas, je ne veux pas !» murmurait-il. Et il agitait les bras, il reculait, mais il avait l'impression de se rapprocher du flacon qui grandissait devant ses yeux. Quand il fut arrêté par la porte, il cessa de voir quoi que ce fût, poussa un cri et fit un pas en avant. C'est à ce moment-là que la domestique entra pour prendre le samovar. Elle mit longtemps à rassembler la vaisselle qu'elle voyait mal de ses yeux endormis. « Quand faut-il vous réveiller ?» demanda-t-elle en partant. Sergueï Petrovitch la retint et se mit à parler, mais il n'entendait ni ses propres questions, ni ses réponses à elle. Lorsqu'il se retrouva seul, la phrase « Quand faut-il vous réveiller demain ?» hantait son esprit. Et elle raisonna longtemps, obsédante, jusqu'à ce qu'il en comprît la signification. Il comprit qu'il pouvait, comme tout le monde, se déshabiller et se coucher, qu'on le réveillerait demain, à l'aube d'une nouvelle journée. Et il vivrait, comme tout le monde, parce qu'il ne voulait pas mourir. Il ne mourrait pas, et personne ne pouvait l'obliger à prendre ce flacon et à le boire. Encore tout frissonnant, il saisit le flacon, l'ouvrit délibérément, respira l'odeur d'amande amère et, doucement, d'une main qui tremblait un peu, le déposa sur une étagère, derrière des livres, là où on ne le voyait pas. À présent qu'il avait tenu le flacon entre ses mains et qu'il n'était pas mort, il n'avait plus peur de lui, ni de lui-même. Quand il s'allongea sur son lit, il avait l'impression que sa vie sauvée se réjouissait dans la moindre cellule de son corps réchauffée par la couverture. Il étirait ses jambes, ses bras qui avaient failli commettre un crime, et il croyait les entendre fredonner doucement d'une voix ténue et joyeuse, comme si son sang jubilait et chantait de ne pas être devenu une masse figée, et de couler librement, gai et bien rouge, le long de ses veines. Et, toujours aussi joyeusement, il gonflait son cœur, et ce cœur chantait, lui aussi, scandant triomphalement un hymne à la vie. « Vivre, vivre !» songeait Sergueï Petrovitch en pliant et dépliant ses doigts dociles et souples. Tant pis s'il était malheureux, persécuté, misérable. Tant pis si tout le monde le méprisait et se moquait de lui. Tant pis s'il était le dernier des hommes, une nullité. De la boue que l'on secoue de son pied. Mais il vivrait, il vivrait. Il verrait le soleil, il respirerait, il plierait ses doigts et les déplierait. Il vivrait. Et cela, c'était un tel bonheur, une telle joie. Personne ne la lui enlèverait, et elle durerait longtemps, longtemps. Toujours. Une quantité innombrable de jours se levait devant lui, et chacun de ces jours, il les vivrait, pour la première fois depuis bien longtemps. Sergueï Petrovitch songea à son père et à sa mère, et il fut saisi d'effroi et d'attendrissement. Il baisait en pensée les rides sur lesquelles auraient dû couler des larmes, et son cœur exultait dans un cri de victoire. « Je suis vivant, vivant !» Lorsqu'il s'endormit d'un sommeil joyeux et léger, sa dernière sensation fut le goût salé des larmes qui mouillaient ses lèvres. Il gelait, et le soleil brillait quand il se réveilla. Il mit longtemps à comprendre pourquoi son lit était fait comme d'habitude, et pourquoi il était couché dessus, vivant, alors qu'il aurait dû mourir la veille. Il avait la migraine, et tout son corps lui faisait mal, comme s'il avait été roué de coups. Petit à petit, pensée après pensée, il se souvint de tout ce qui s'était passé la veille dans sa tête, et ne comprit pas pourquoi il avait eu si peur, ni ce qu'il y avait de si terrible dans ce qu'il avait toujours su et qu'il s'était représenté des dizaines de fois. La mort, les funérailles, la tombe. Et alors, comment pouvait-il en être autrement quand un homme meurt? Bien sûr qu'on l'enterrerait, que pour cela, on creuserait une tombe, et que, dans cette tombe, son corps se décomposerait. Il examina encore une fois avec attention et incrédulité ces terribles visions de la veille, mais elles étaient devenues pâles et ternes,
et pâlissait de plus en plus, comme c'est le cas pour les rêves, si nets au moment du réveil, qui sont vite effacés par l'impression vivante de la réalité et du jour. Ces tableaux de mort n'avaient rien de terrible, et sa joie de vivre lui semblait incompréhensible et absurde. Et, comme pour fournir une réponse à cette énigme, surgit la pensée que lui, Sergueï Petrovitch, était un lâche et un pleutre. Il se souvint de la lettre qu'il avait envoyée à Novikov, dans laquelle il l'informait de sa mort comme d'un fait accompli. Et il rougit de honte. Il sentit que sa décision de mourir était aussi inexorable, aussi tranquille et aussi inéluctable que la veille, avant qu'il ne cédât à un accès de peur lâche et incompréhensible. La peur avait disparu, mais la honte brûlante tardait à se dissiper, et de toutes les forces de son âme tourmentée, il se révolta contre cette peur évanouie, contre ce maillon, le plus déshonorant de la longue et lourde chaîne de l'esclave. La force indifférente et aveugle qui avait tiré Sergueï Petrovitch des ténèbres de l'existence avait tenté une dernière fois de le retenir dans ses fers, comme un lâche qui n'arrive pas à s'évader, et elle avait réussi, ne fût-ce que pour quelques heures. Cette honte cuisante flamba en lui avec une force nouvelle, et sa flamme réduisit en cendres jusqu'au souvenir de cet éphémère accès de terreur. Quand la lueur se fut éteinte, la douleur sourde et lancinante de son corps avait elle aussi disparu. Il était devenu léger, presque insensible. Son mal de tête avait disparu, et son esprit se mit à fonctionner à une vitesse folle, avec cette puissance et cette clarté que l'on ne connaît qu'au cours des accès de fièvre. Ses lèvres frémissaient du désir de parler. Il lui venait des mots inconnus qu'il n'avait jamais employés. Il se disait que s'il restait en vie maintenant, il se haïrait, et il lui faudrait alors boire jusqu'à la lie une coupe si pleine de mépris pour lui-même qu'auprès d'elle, le poison paraîtrait un nectar. Son moi, ce moi noble et indépendant qui, l'espace d'un instant, s'était senti vainqueur et avait éprouvé la joie démesurée du triomphe d'un esprit audacieux sur la matière aveugle et despotique, ce moi le tuerait si le poison ne s'en chargeait pas. Il eut l'impression de sentir la puissante montée de ce moi en lui. Il le sentait croître, et les éclats fracassants de sa voix recouvraient le misérable piaillement de son corps, qui n'était fort que la nuit. Que ceux qui le voulaient plient l'échine, lui, il briserait sa cage de fer. Lui, un être pitoyable, bête et malheureux, s'élèverait en cet instant plus haut que les génies, les rois et les montagnes, plus haut que ce qu'il y avait de plus haut sur terre, parce que triompherait en lui ce qu'il y a au monde de plus pur, de plus magnifique, un moi humain, audacieux, libre et immortel. Il ne pouvait être vaincu par les forces sombres de la nature. Il était maître de la vie et de la mort, ce moi audacieux, libre et immortel. Ce qu'éprouvait Sergueï Petrovitch ressemblait au délire orgueilleux et chaotique de la mégalomanie. C'est du moins ce que dirent certains en lisant sa troisième lettre à Novikov, dont nous avons cité des extraits. Il l'avait écrite sans s'habiller, sur un bout de papier qui s'avéra être une note de blanchissage, et elle ne tomba entre les mains de Novikov qu'après bien des errances, après avoir séjourné à la police et au tribunal de paix. C'est à ce moment-là qu'assis à cette même table, il avait avalé le poison, et quand la domestique était entrée avec le samovar, il était déjà sans connaissance. Le poison avait été préparé par des mains inexpérimentées.
Il était trop faible. Et on eut le temps de transporter Sergueï Petrovitch à l'hôpital Catherine, où il ne mourut que vers le soir. Le télégramme envoyé à sa mère arriva trop tard. Et elle ne vint qu'après l'enterrement. Les étudiants qui l'avaient prévenue estimèrent que cela valait mieux, car, dans le cercueil, avec son crâne trépané et son visage couvert de taches, Sergueï Petrovitch n'était pas beau du tout, et même affreux. Il pouvait produire une impression pénible. Tout ce qu'elle trouva de son fils, ce furent des livres et des vêtements usés, parmi lesquels une veste d'intérieur élimée, déchirée sous les bras et fraîchement reprisée.